Alors, Vincent, ben, complétons sur le vaccin, parce qu'il y a pas mal de nouvelles aujourd'hui en lien avec les vaccins.
Oui, et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être à la fête, là.
Non.
On a notre billet pour plus une autre représentation, disons. Parce que effectivement, donc aujourd'hui, le rappeler...
En fait, dans le buffet d'un bateau de croisière, là, on dit, vous allez être dans le deuxième service. Mais inquiétez-vous pas, il devrait en rester, là.
Oui, mais ça se peut que les langoustes et les pattes de crabe, il y en ait plus. Effectivement. Le patron d'ailleurs du laboratoire américain Moderna s'est félicité aujourd'hui de l'homologation du vaccin de Pfizer au Royaume-Uni. On comprend que Moderna et Pfizer, là, c'est les deux qui sont les plus avancés, qualifiant tout ça d'une très bonne nouvelle. Alors, on sait que, effectivement, pour ce qui est du Royaume-Uni, ça commence. Alors, on va vacciner à grande échelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'était jour de déconfinement pour une partie des Anglais. Alors, c'est un peu fête aujourd'hui parce qu'on commence. Ça, je comprends, là, c'est un déconfinement très partiel qui est plus régional. On avait vraiment serré la vis parce qu'on avait une montée de cas fulgurante au Royaume-Uni il y a quelques semaines. Alors là, on a réussi à inverser la courbe. Alors, on permettra un petit peu plus de liberté, se rendre dans les magasins, par exemple, pour aller
Mais
faire des achats de Noël.
Que lundi ou mardi prochain, là, ça va être une nouvelle là, terrestre. Là. Je veux dire, probablement qu'on aura des images, des photos à la une. Je sais pas qui sera la première personne, là, quelque part à Londres ou au Royaume-Uni, là. Est-ce qu'on choisira un médecin héros ou un infirmier? Voir un geste. C'est après, depuis février qu'on parle de la pandémie, le premier vaccin va être comme un moment historique, là, tu comprends? Puis là, c'est là, tous les pays vont commencer à se demander plus concrètement, OK, nous autres, c'est quand? Puis là, ce matin, je l'ai fait à LCN à l'émission. Tous les plans des pays d'Europe, des pays importants, genre le Canada, on est en retard, là. Beaucoup, là, à date. Peut-être qu'on aura des plans plus optimistes, peut-être qu'ils sont en train de réparer le plan, mais pour l'instant, on semble très en retard sur les autres.
Là. Parce qu'on peut voir la Russie aussi, là, son fameux vaccin Sputnik. Là,
mais ils commencent à le donner en décembre, aux autres aussi.
Oui, on avait été très sceptiques au départ, mais ils vont de l'avant, la Russie. Ils veulent commencer effectivement une vaccination massive à la fin de la semaine prochaine. D'ailleurs, on aura des millions de doses disponibles pour ce qui est du vaccin russe. Ce qu'il y a quand même de particulier pour revenir au Royaume-Uni, c'est qu'eux, ils l'ont avant le reste de l'Europe, entre autres à cause du Brexit, parce que l'Union européenne...
Ils ne se soumettent plus à l'EMA, là.
Exact. L'Union européenne est beaucoup plus... il va plus lentement.
Mais on dit 29 décembre. La date clé, c'est 29 décembre pour l'Union européenne.
On va se prononcer le 29 décembre. Ça paraît loin aujourd'hui quand tu commences la vaccination dans quelques jours, là. Alors, effectivement, pour le Royaume-Uni, ben, c'est un des avantages présentement du Brexit. Et aux États-Unis, quantifier un peu plus aussi le plan là, pour les prochains mois. C'est assez facile à comprendre. 20 millions de personnes vaccinées d'ici le jour de l'an. Donc, pour décembre, 30 millions en janvier, 50 millions en février. Donc, à la fin février, on aurait 100 millions d'Américains.
Mais moi, vaccinés. Je disais ce matin que ça, c'est ce dont ils sont certains.
Oui.
Avec les Pfizer. Mais c'est pas impossible que s'il y a du Moderna ou d'autres qui sont approuvés, qu'on ajoute un 10 millions à chaque mois, n'est plus. Mais tout ce que tu viens de dire, ajoute-en un 10 millions à chaque mois, là.
C'est ce qui est peut-être rassurant pour nous aussi, Mario, parce que là, on dit Johnson & Johnson peut très bien arriver, là, en début d'année. AstraZeneca aussi. Alors, ces compagnies-là, on ne les compte pas, là, actuellement, dans le 100 millions. Et oui, il y aura peut-être aussi, donc, pour nous, du potentiel, si d'autres compagnies arrivent avec un vaccin rapidement. Alors, c'est le plan pour l'instant, mais pour nous, il faudra attendre, effectivement.
Bilan des cas chez nous, donc c'est pas bon du tout. On a franchi le cap des 1500.
Oui, 1514 aujourd'hui, le très mauvaise journée. 43 décès, 21 personnes hospitalisées, plus une personne aux soins intensifs.
Là, ça fait trois jours de suite que les hospitalisations montent de 20 et plus. Donc ça, c'est... En fait, je pense que c'est la plus grosse montée d'hospitalisation sur trois jours, parce que généralement, il y avait un peu de denticine. Une journée, c'était plus 10. Le lendemain, c'était moins 5. Ça variait dans les hôpitaux. Là, on a l'impression que c'est une montée plus abrupte.
Oui, et on voit que la région de Montréal, entre autres, la situation est moins bonne. Là, presque 400 cas, 386. Capitale-Nationale, 186 aussi. Le Saguenay, 117. Je veux dire, Appalaches, 130. Et la Montérégie, 191. Peut-être les régions les plus affectées aujourd'hui. Je vous disais, l'Ontario aussi, le 1723 nouveaux cas. 35 5 décès. Alors, c'est lourd. Aussi des records d'hospitalisation pour l'Ontario. Quand même moins que le Québec, mais on est proche. Vous comprenez que l'Ontario, c'est plus gros aussi. Là. Alors, on est un peu derrière le Québec.
Aussi.
Ça a commencé plus tard, mais on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de cas. Et une progression qui est fulgurante dans des coins où, un peu comme le Saguenay, là, où on avait été un peu épargné au début et qui, là, on y goûte. C'est le cas à Sorel-Tracy. Sorel-Tracy, on avait presque pas été affecté par la pandémie au printemps dernier. Et là, on est frappé de plein fouet. Entrée brutale dans des résidences privées pour personnes âgées dans les derniers jours, entre autres, là, pour vous donner un exemple, les Jardins de Ramsey, une résidence qui accueille une clientèle vulnérable, clientèle là, qui souffre de démence, de maladie d'Alzheimer. Donc, c'est très difficile. C'est ce qu'on expliquait là, chez les dirigeants de l'endroit. Très difficile à gérer parce qu'on se retrouve avec des gens qui se promènent d'une chambre à l'autre parce qu'on peut pas leur expliquer là à quel point c'est nécessaire d'être confiné. 61 résidents, 35 travailleurs infectés, entre autres là des situations critiques dans plusieurs des phases. Phase 2, 86% des résidents atteints. Phase 4, 55%.
Mais moi, c'est ce qui m'a frappé ce matin. J'ai fait un tour d'horizon de 5 régions là, d'où il y avait des résidents. Et ça, c'est 86. Il y a un 92. Puis il y a un 100%.
Tout le monde a la COVID.
Tout le monde a la COVID. Donc, dans les résidences, présentement, là, t'as un 86. Donc, ça, c'est celle... Parce que là, en haut de 85%, faut le faire. Quand on dit que c'est une circulation complète, tu te demandes... C'est que tout le monde a fini par toucher aux mêmes affaires.
Mais c'est sûr que dans des ailes où t'as des gens qui souffrent de démence, on dit il y a de l'errance, là. Les gens, ils se promènent, puis à un moment donné, on peut pas les attacher 24 heures sur 24. Donc, c'est une situation qui est très, très difficile à Sorel-Tracy, présentement. Alors, il y a des coins où ça se détériore, malheureusement.
L'INSPQ qui a confirmé ce qu'on dit tous les jours, là, mais que la grande majorité des gens qui sont décédés de la COVID avaient une autre maladie.
Oui, comorbidité à 97% des 5000 premières victimes de la COVID au Québec, c'est les résultats d'une étude de l'INSPQ sur la comorbidité. Il faut comprendre, comorbidité, là, c'est pas donc des gens qui sont à l'article de la mort. Là. C'est 40% de la population du Québec qui souffre. Là. On a identifié plusieurs comorbidités qui sont en lien.
Non, mais diabétique, plein d'affaires.
Hypertension, maladie cardiovasculaire, évidemment, maladie respiratoire, diabète,
anémie. C'est pour ça que j'ai trouvé que ça disait rien, parce que si on avait fait quelque chose, je comprends que tu peux jamais faire ça, mais je pense qu'il y a un pourcentage de ces gens-là qui étaient vraiment, mettons, on pourrait dire qu'ils seraient décédés dans les 6 prochains mois, là. Des gens en CHSLD, très malades, dont les proches attendaient. Mais quand on dit comorbidité, je veux dire, il y a des gens qui avaient 40 ans, mais qui avaient du surpoids, là.
Absolument.
Un peu de diabète.
Absolument. C'est pour ça que je tiens à dire, c'est 40% de la population du Québec qui a une comorbidité quelconque.
Fait que pour pas en avoir, ça veut dire que c'est quand tu vas voir ton docteur pour ton bilan annuel puis qu'il te dit que tout est correct.
Exactement, exactement.
Mais alors, c'est pas tout le monde.
Absolument. Donc bon, ça montre que 87% des personnes hospitalisées pendant la première vague étaient également avaient une condition médicale préexistante. Mais on tient à dire à l'INSPQ de pas paniquer non plus chez les gens qui sont très nombreux à avoir une comorbidité. C'est chez les plus jeunes, encore là, le taux de décès est extrêmement bas. Alors, on demande tout simplement d'être vigilant, évidemment, pour les gens qui en souffrent.
Merci, Vincent.